Je n'aime point cordialement les jésuites, mais toutes les hérésies les ont toujours détestées, ce qui est leur triomphe. Je n'en dis pas plus. Pour la paix de mon royaume, si je les renvoie contre mon gré, du moins je ne veux pas qu'on croie que j'ai adhéré à tout ce que les parlements ont fait et dit contre eux. Déclaration du roi Louis XV en 1767 à propos des jésuites.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 16 août 1773, dit-on en pleurant, le pape Clément XIV signe le bref Dominus ac Redemptor qui abolit la Compagnie de Jésus. C'est un geste fort parce que, en supprimant les jésuites, on a le sentiment d'effacer plus de 2 siècles d'histoire du catholicisme. Fondée en 1534 par Ignace de Loyola, reconnue en 1540 par le pape Paul III, la Compagnie de Jésus a été sans doute le plus grand ordre de la réforme catholique à la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle. On peut même dire que c'est encore une très belle institution au XVIIIe siècle. En 1710, on compte, le chiffre est précis, 19 998 jésuites. En 1749, ils sont 22 589, répartis en 39 provinces, dont 13 se situent hors d'Europe. Derrière ces chiffres, il y a 609 collèges, 176 séminaires, 335 résidences, 273 missions, 61 noviciats où se forment les futurs pères jésuites. Et il y a même des régions d'Europe où l'on voit leur nombre croître de manière intéressante. Ainsi, la province d'Autriche, qui passe pour la période 1710-1749 de 1220 personnes à 1772, ou la province de Pologne, qui pour la même période passe de 644 membres à 1050. Qu'est-ce qui fait que la Compagnie de Jésus reste un élément fort du catholicisme en ce début du XVIIIe siècle? D'abord, c'est l'immense réseau des collèges. Ces collèges qui ont débuté à la fin du XVIe siècle et se sont développés de manière considérable au XVIIe siècle. Ils appliquent encore ce qu'on appelle la Ratio Studiorum de 1599, c'est-à-dire les programmes qui sont utilisés pour l'enseignement jésuite. Les humanités ont leur place, l'histoire, mais il y a également des nouveautés pédagogiques. D'abord, on va de plus en plus insister sur les langues vernaculaires, la bonne maîtrise du français, de l'allemand, de l'espagnol. Mais également, autre nouveauté pédagogique, c'est le rôle même de ce qu'on pourrait appeler l'éducation physique. Le corps n'est pas que pour penser, mais aussi pour agir, pour se développer. Il y a également des habitudes pédagogiques qui font le prestige des jésuites. C'est par exemple la disputatio, la capacité que les professeurs jésuites ont de donner un sujet sur lequel ils font débattre leurs élèves. Ce n'est pas totalement nouveau, mais cette pratique est généralisée à toute l'Europe jésuite. D'autre part, ils sont aussi les confesseurs du roi, en particulier en France. Et ça joue sur cette image du jésuite qui est proche du pouvoir et qui peut éventuellement l'influencer. Parmi les confesseurs du roi les plus célèbres, il y a le fameux père Lachaise qui donnera son nom au cimetière. Il y a également les missions, car Ignace de Loyola, avant de penser lutter en Europe contre le protestantisme, voulait plutôt élargir le catholicisme à l'échelle du monde. Et donc, à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, on va retrouver des jésuites en Inde, en Chine, que l'on songe à Matteo Ricci, ou bien jusqu'au Japon, avec François Xavier. Mais c'est essentiellement en Amérique latine que l'on va retrouver les grandes missions jésuites, en particulier dans ce qu'on va appeler le Paraguay, qui couvre une bonne partie du monde amazonien. La première mission en Amazonie a été créée en 1609 sous protection du roi d'Espagne, à l'époque Philippe III, et du pape. Au total, une trentaine de missions sont établies sur une zone assez ample, à peu près 300 à 400 kilomètres du nord au sud, et environ autant de l'est à l'ouest. Aujourd'hui, en Argentine, en Uruguay, au Brésil, au Paraguay. Sur le plan spirituel, il y a une dévotion au Sacré-Cœur qui est légitimement développée par la Compagnie de Jésus. Plusieurs ouvrages sont publiés à ce sujet au XVIIIe siècle. J'en cite un du père jésuite Jean Croiset, qui a écrit en 1704 la dévotion au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous le voyez, en cette première moitié du XVIIIe siècle, la façade de la Compagnie de Jésus est encore extrêmement forte, extrêmement belle, et pourtant, elle va subir, à partir clairement des années 1750, une série d'offensives. Ces offensives contre les pères jésuites ont pris plusieurs aspects. D'abord, justement, contre les missions. Il se trouve que, en 1750, avait été signé entre les couronnes du Portugal et d'Espagne le traité de Madrid qui reconfigurait les frontières entre les deux empires en Amérique du Sud. Or, les Portugais voulaient véritablement mettre au pas les missions jésuites, d'autant plus que ces missions, qui avaient concerné environ 150 000 Indiens Guarani, étaient devenues de véritables concurrents contre les exploitations coloniales de production agricole. Et les colons portugais vivaient mal cette concurrence. D'autre part, les jésuites avaient une tendance à empêcher le commerce des esclaves. Ils protégeaient dans les missions les Indiens. Et par là même, les Portugais, qui étaient le grand pourvoyeur d'esclaves de l'Amérique latine, beaucoup plus que les Espagnols, eh bien, voyaient dans ces missions jésuites une indéniable gêne. Eh bien, progressivement, à partir de 1754, la couronne du Portugal s'est lancée dans une éradication progressive des missions. Par moments, cela s'est fait de manière relativement pacifique. Mais par moments, cela a été un objet de guerre. Il y a eu ce qu'on appelle la guerre des Guarani entre 1754 et 1756. Officiellement, 1500 Indiens ont été tués, plus probablement aux alentours des 10 000, et les Portugais ayant eux-mêmes perdu quelques centaines de soldats. Donc, les missions se terminent finalement en tragédie pour les jésuites. Et d'ailleurs, je vous renvoie au film de 1986 de Laurent Joffé, « Mission ». D'autre part, il y a également une politique des monarchies de l'absolutisme éclairé qui vise à abaisser la puissance de l'Église, l'influence de l'Église, et la Compagnie de Jésus est perçue comme un levier important de cette influence. Vous avez à Lisbonne le marquis de Pombal qui, à la fin des années 1750, devient principal ministre du roi Joseph Ier et qui va indéniablement débuter une politique extrêmement agressive vis-à-vis des jésuites, non seulement en Amérique latine comme nous venons de le voir, mais également vis-à-vis du système scolaire. Pedro Pablo d'Aranda, président de Castille, du Conseil de Castille, sous le roi Charles III, va lui aussi se lancer dans une politique d'abaissement des jésuites. La France ne va pas échapper à ce phénomène. La France est déchirée entre jansénistes et jésuites. La question janséniste est une ancienne question qui remonte au XVIIe siècle, qu'on avait cru régler avec la bulle papale Unigenitus en 1713, mais en fait les parlements sous Louis XV s'emparent de la question, sont en faveur des jansénistes pour abaisser les jésuites qu'on accuse d'être trop proches de Rome. Et ce conflit va aboutir véritablement à un phénomène d'expulsion. Le Portugal débute une expulsion en 1759, suivie de la France en 1764, de l'Espagne, du royaume de Naples, du duché de Parme en 1767. Le pape de l'époque, Clément XIII, refuse d'ailleurs d'accueillir les jésuites parce qu'il ne veut pas donner le sentiment de céder à la pression des monarchies catholiques qui le poussent à réduire l'influence des jésuites en supprimant tout simplement l'ordre. C'est son successeur, le pape Clément XIV, élu en 1769, qui, pressé par les ambassadeurs des monarchies catholiques, va finalement céder et, comme je l'indiquais au début de ma chronique, signer le bref du 16 août 1773 qui détruit officiellement et abolit officiellement la Compagnie de Jésus. En l'apprenant, Diderot prit sa plume et écrivit à D'Alembert « Les araignées sont en train de se dévorer entre elles, c'est une heureuse nouvelle ».